Le Salon de la copropriété, les 3 et 4 novembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP et Drieux-Combalusier sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs, on continue les interviews en direct du Salon de la copropriété. Vous le savez, le seul événement national entièrement dédié à la gestion, au fonctionnement et à la valorisation des immeubles. Avec moi pour cette interview, Francis Bourriaud, bonjour.
Bonjour.
Fondateur d'ADB Conseil, mais aussi Syndicalure, merci d'être avec nous. Alors, avec vous, on va déjà commencer par parler de la crise, ou en tout cas du post-Covid. On sait que finalement, la crise sanitaire a fragilisé les copropriétaires et les copropriétés. Si on devait prendre le pouls aujourd'hui de la situation, Francis Bourriaud, quel est-il ?
Actuellement, la situation est la suivante. Les copropriétaires ont été très affectés par le Covid, psychologiquement et financièrement. Financièrement, parce que beaucoup ont vu leurs revenus diminuer avec le chômage partiel. Certains ont même perdu leur emploi. Mmh. Donc il y a un accroissement des impayés dans les copropriétés de façon importante. Donc il y a un impact financier lourd. Ensuite, psychologiquement, le confinement, le stress a développé des comportements assez négatifs dans les copropriétés. Donc la copropriété en elle-même n'a pas été affectée, mais les copropriétés ont été fortement impactées par le Covid. Ça, c'est évident.
C'est vrai que dans les coulisses, en préparant cette interview, vous m'aviez confié deux, trois anecdotes sur finalement ce stress des copropriétaires. Deux, trois anecdotes que vous pouvez partager avec nos auditeurs.
Les anecdotes, par exemple, pendant le Covid, des copropriétaires demandaient que soient évacués de l'immeuble des gens qui travaillaient à l'hôpital. Des choses comme ça. Des comportements que j'appelle déviants. On ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille dans un hôpital de ne pas rentrer chez soi le soir parce qu'il peut être porteur du virus.
Et ça, ça a influencé finalement le fonctionnement d'une copropriété ?
Bien sûr, il y a des gardiens qui ont été, entre guillemets, agressés dans leur fonction, parce que les gens voulaient se comporter de façon, j'allais dire, hermétique. Mm-hmm. Ça, on peut appeler un terme antivirus. Ils voulaient être étanches au virus, donc ils avaient des comportements étranges, bizarres ou déviants. Mm-hmm. Ça, on l'a constaté. En contrepartie, on a aussi des comportements exemplaires. Moi, je connais des gardiens qui ont acheté une combinaison étanche avec leur argent et qui montaient aux personnes âgées les courses pendant le Covid.
Alors, on a eu beaucoup de vidéos, effectivement, quand on est sur les réseaux sociaux, de ce genre de comportement exemplaire que vous décrivez. Je pense que, j'espère qu'ils ont été en majorité, finalement.
Non, c'était pas la majorité, malheureusement.
Malheureusement. Si on s'attarde sur la partie purement financière cette fois, quelles sont les charges qui ont significativement augmenté post-Covid ?
Alors, je ne dirais pas que c'est le Covid vraiment qui a occasionné une augmentation des charges. Les charges augmentent de façon exponentielle, contrairement à ce qu'on peut lire par ailleurs. Alors, vous avez le chauffage qui grimpe beaucoup plus vite. L'énergie, elle coûte de plus en plus cher, donc le chauffage est très impacté. Vous avez tout ce qui est puce électronique, ça c'est le Covid. Par exemple, moi j'ai un dossier, on monte un système de climatisation pour 1 million d'euros dans un immeuble rue Pierre Charron. Eh bien on a eu 6% d'augmentation du devis du fait des éléments électroniques du système.
Effectivement, la crise sanitaire n'a pas été un dommage collatéral plus que ça finalement. On va dire que ce sont des charges qui devaient de toutes les façons augmenter.
Oui, mais par exemple, l'impact sur ces travaux-là, c'est Covid quand même. En revanche, les charges chauffage, ce n'est pas Covid. Mm-hmm. On ne peut pas imputer ça au Covid. Mm-hmm. Ensuite, vous avez beaucoup de charges qui ont augmenté du fait que des strates administratives qui s'accumulent depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc vous avez des certificats, des documents. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez dératiser un immeuble. Ce n'est pas simplement mettre des boîtes à souris comme avant à 250 euros. C'est un contrat plus complexe de 800 euros. Vous allez dire que c'est 600 euros de plus, mais multiplier ça par 10, ça fait un budget par an.
Alors, je rebondis là-dessus.
C'est la réglementation qui impose ces augmentations.
Ah d'accord, ok. Alors, je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, on passe de 200 à 600 euros. Francis Bourriaud, quand on est un copropriétaire, comment repérer finalement des charges anormalement élevées ?
Alors, là, c'est plutôt l'expérience et les compétences. Pourquoi ? Parce que...
Qu'on n'a pas toujours en tant que copropriétaire.
Voilà, les copropriétaires l'ont jamais ou rarement. Premièrement, le nom de l'entreprise. Deuxièmement, le nom du syndic. Vous avez des syndics où les charges sont plus élevées naturellement je ne donne pas d'explication à la radio. Vous avez des entreprises qui sont plus chères que d'autres de façon non justifiée. Et vous avez un critère qui est très objectif, c'est le ratio au mètre carré. C'est-à-dire que vous avez des ratios professionnels. Par exemple, dans une tour IGA, vous avez un ratio à 55 euros. Si les charges sont à 65 euros ou 70 euros au mètre carré, vous êtes donc trop cher. Vous êtes en dehors du cadre. 35 euros dans un immeuble classique, 20 euros dans un immeuble sans confort, sans ascenseur, sans chauffage. Si vous dépassez ces points milieux, on va les appeler, ou ces points de référence, ça veut dire que vous êtes cher. Et là, il faut chercher les gisements. Alors, les gisements, c'est une autre paire de manches. Mais la première chose que doit voir un co-huteur ou surtout un conseil syndical, c'est de regarder son ratio. Est-ce que le ratio est bon, pas bon? S'il est très bon, bah, tout va bien. S'il est correct, à vérifier. S'il n'est pas bon, on va les fouiller un petit peu plus en avant dans les comptes du syndic.
Une fois qu'on a dit ça, les leviers finalement d'économie possibles et qui peuvent se révéler efficaces, selon vous?
Alors les leviers, j'allais dire les charges qui sont impactées par ce qu'on appelle une maîtrise des charges, sont toutes les charges qui ne sont pas monopolistiques. C'est-à-dire je prends l'eau, vous êtes avec un contrat de fermage avec Haute-Paris ou Veolia, vous ne pouvez pas aller maîtriser ce poste. Les salaires des gardiens, il y a un contrat de travail, c'est le droit du travail, vous ne pouvez pas impacter ça à l'économie, à moins qu'il s'en aille et que là vous embauchez. Ça c'est un peu particulier. En revanche, tout ce qui est maintenance, ascenseur, P2, P3 de chauffage par exemple, contrat d'entretien jardin, tous les contrats 3D, tous les contrats porte de parking, etc., vous pouvez avoir des économies entre 2 et 21%. C'est un exemple concret que je mène actuellement. J'ai eu 21% sur les ascenseurs avec le même exploitant. Parce que l'idée, c'est pas d'aller chercher le low cost, que le low cost, tout le monde sait faire. Je vais chercher un prestataire qui n'a pas de cabis, qui vient de se créer, qui n'est pas bon, et qui va faire 50%. On a 50%, mais on n'a pas le service. Quand vous gardez le même prestataire qui donne satisfaction et qui vous fait une remise de 21%, ça, c'est significatif.
Alors, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui divise. Je vous remercie de mettre le doigt dessus, parce que systématiquement, on imagine que pour faire des économies, il suffit de changer de prestataire. Beaucoup pensent, et je pense que vous en faites partie, que c'est une mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand vous changez de prestataire, si le prestataire est intelligent, le nouveau, il va vous faire une proposition commerciale très attractive, mais il va changer le contenu de la proposition sans que vous en rendiez compte, notamment si vous n'êtes pas professionnel. Donc vous allez payer, vous allez avoir un prix, mais la prestation va être un petit peu moindre. Et ça, c'est pas bon.
Pourtant, on pourrait se dire que challenger finalement le marché, c'est une bonne idée aussi quand on veut faire des économies.
L'économie doit se faire à périmètre égal. Ou bien, à ce moment-là, on réduit le périmètre pour avoir une économie plus forte. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Je prends un exemple. Si vous avez du ménage une fois par semaine, et vous dites, l'entreprise vous dit, ça suffit une fois tous les 15 jours, c'est pas le même périmètre. Donc, elle va faire deux fois moins cher. Vous gagnez une somme d'argent.
Oui, là, c'est pas la même chose.
Mais c'est pas la même chose.
Oui, effectivement. Là, on ne compare pas la prestation. Là, on diminue, effectivement. Voilà.
Il faut bien comparer la prestation. Elle soit identique. Et après, éventuellement, on peut négocier en la diminuant. Mais c'est un autre problème pour moi.
Alors, dans certains cas, la réduction des charges implique un changement de syndic. Comment, dans ce contexte, choisir le bon syndic? Alors, je pense que là, c'est une question épineuse.
Non, je vous ai répondu déjà tout à l'heure. J'ai simplement, en regardant le nom du syndic et le nom d'entreprise, on sait que les charges sont élevées. Donc, c'est premier, ça donne
une indication
et ça rebondit sur votre question. Il y a des syndics qui sont naturellement très chers au niveau des charges. Alors, vous n'allez pas les faire plier, c'est leur politique commerciale.
Donc, c'est peut-être justifié aussi, mais c'est peut-être justifié.
Non, c'est pas justifié.
Pas toujours.
Jamais.
Ok.
Je suis ferme et précis.
Au moins, vous avez un avis tranché là-dessus.
Un avis tranché. Donc, il faut changer de syndic. Alors, changer de syndic pour donner la mission au nouveau syndic de maîtriser les charges, ça, c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'en fait, le nouveau syndic, déjà la première année, il va falloir qu'il enregistre l'immeuble, qu'il s'enrichisse de l'immeuble, qu'il prenne l'historique de l'immeuble, etc. Donc la première année, il ne va pas être du tout disponible pour faire ça. Ensuite, un syndic a un gestionnaire à environ 45 immeubles. Donc vous imaginez, si les 45 immeubles, il demande une réduction des charges, il a 2 ans de travail devant lui, il ne fait plus rien. Donc il ne peut pas le faire mécaniquement. Donc trouver un syndic avec l'unique objectif de réduire les charges, c'est utopique. Ce qu'il faut, c'est que le conseil syndical se retrousse les manches et aille à la recherche des économies. Mmh. Et je le dis à nouveau, avec les mêmes prestataires. Donc ce n'est pas non plus aller faire des appels d'offres compliqués, c'est de consulter les prestataires en place et de leur dire, bon écoutez, on est content de vous, est-ce que vous pouvez nous faire un prix ? Alors, le prestataire dit, je fais 3%, 8%, 12%, 21%. Mmh. Et là, on va gagner déjà mécaniquement. Mmh. Et on a un nouveau syndic, quelquefois moins cher. On a des prestations moins chères, identiques. Et là, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Alors, toujours avec la Covid, il y a eu une mouvance qui a été finalement la mise en place d'un vote par correspondance.
Exclusif.
Exclusif. Et il y a eu des effets pervers finalement à ce vote par correspondance. Est-ce qu'on peut les rappeler avec vous ?
Alors, les effets pervers, ils ont été considérables parce que j'ai beaucoup de cas pratiques où le syndic falsifiait les bulletins de vote.
Ah oui, là, on n'est plus dans les effets pervers. Là, on est dans la
on va rentrer dans le dur.
Dans la malhonnêteté, là.
Le syndic jetait les bulletins qui ne lui étaient pas favorables. Le syndic mettait à l'ordre du jour un contrat de 3 ans, alors que depuis 10 ans, il
vous
était un contrat
d'un an. Vous avez des noms à partager avec nous sur Radio Imo ?
On ne peut pas partager de noms, mais hors micro, je vous donnerai quelques noms. Des syndics qui faisaient voter des gens qui avaient vendu depuis 2 ans, tout ça pour être réélu ou faire passer une foultitude de travaux très coûteux. Puisque le vote était binaire, c'est-à-dire que c'était oui, non. Je vote oui ou je vote non. Il n'y avait pas de discussion, pas d'intervention. Le syndic était tout seul dans son bureau, il rédigeait. Donc il y a eu beaucoup de falsifications. Aujourd'hui, moi j'ai une vingtaine de dossiers qui sont judiciaires là-dessus. On conteste l'Assemblée, les clients contestent l'Assemblée pour obtenir gain de cause. Vous avez aussi des votes. Il y a certains syndics l'ont fait exprès, d'autres l'ont fait par ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne votaient pas, le Gréco l'avait rappelé, ils ne votaient pas. Article 25, élection du syndic, je ne passe pas, j'ai 42%. Ils ne faisaient pas voter en 25-1 parce qu'ils n'avaient pas prévu la ligne dans le bulletin de vote.
Ah oui.
Alors, ou c'était un oubli volontaire, ou c'était une erreur de la secrétaire.
Vous voyez, je reste neutre dans ma réaction, n'est-ce pas ?
Bon, oui, mais résultat des courses, le syndic ne pouvait pas être élu, théoriquement.
Oui, oui.
Eh bien, il notait quand même « je suis élu ». C'est ce que j'appelle un abus.
Oui, non, c'est certain. Bon, le mot de la fin, finalement, parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui... on est sur des discours qui sont très anxiogènes, qui s'inquiètent, qui se posent des questions qui peuvent paraître bateaux, mais qui sont finalement parfaitement légitimes, surtout quand on entend votre témoignage.
Alors, si on veut avoir un mot de conclusion objectif et, j'allais dire, optimiste, il faut regarder les choses en face. La législation s'est améliorée. La loi Allure, la loi Élan. Et aujourd'hui, les conseillers syndicaux, on ne parle pas du coïtaire lambda qui vient une fois par an à l'Assemblée 2 heures, qui n'est pas bien informé, mais les conseillers syndicaux ont beaucoup plus d'outils et de pouvoir qu'avant. Et ça, il faut qu'ils l'utilisent. Malheureusement, aujourd'hui, peu de conseillers syndicaux utilisent leurs prérogatives. Mmh. J'ai vu un président tout à l'heure sur le stand. Il est dans un ensemble immobilier de 3 tours avec un ERP, ce sont des IGH, etc. Et il vient de découvrir les pouvoirs propres du président. Je viens de lui expliquer ce qu'il pouvait faire. Il me dit, bon, on ne m'a jamais dit. Mmh. Il me dit, moi, je vous le dis, vous pouvez faire tout ça. Mmh. Ah, il me dit, ça va nous changer la vie au conseil syndical. Parce que le syndic n'est pas très souple, on va dire. Donc, ça, c'est un avantage, un atout et une vision optimiste de l'avenir.
Merci beaucoup, Francis Bourriaud, pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir écoutés. On reste encore ensemble tout au long de cet après-midi en direct du Salon de la Copropriété. À tout à l'heure.
Le Salon de la Copropriété, les 3 et 4 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP et Drieux Combalusier sur Radio Immo.